tous les dimanches de l'été sur Europe 1.
10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Tout cet été, chaque dimanche, pendant environ une heure, je vous propose un grand entretien pour prendre le temps de traiter des grands thèmes qui ont rythmé l'actualité de ces derniers mois. Politique, relations internationales, énergie, santé, sport. Nous parlerons de tous ces enjeux et des conséquences qu'ils ont dans notre quotidien. Dimanche dernier, 24 juillet, Catherine Ney, l'une des plumes les plus aiguisées du journalisme politique, a commencé à nous raconter ce qui a fait le succès des deux tomes de ses mémoires. Aujourd'hui, elle continue sa chevauchée fantastique et impertinente au milieu d'une classe politique où vont se croiser Pompidou, Mitterrand, Chirac, Balladur, Sarkozy et l'étoile filante François Hollande. Catherine Ney, grande voix d'Europe 1. Aujourd'hui, on va continuer ce que nous avions commencé dimanche dernier, c'est-à-dire l'analyse de la vie politique française, celle que tu as pu couvrir pendant des années, ici à Europe 1, mais aussi à l'Express, là où tu as commencé. Et nous nous étions arrêtés au début de Nicolas Sarkozy, qui devenait le maire de Neuilly. Alors qu'il était prévu que cette mairie soit occupée par Charles Pasqua, et Nicolas Sarkozy avait gagné de vitesse absolument tout le monde, s'était imposé auprès de l'électorat de Neuilly qui ne voyait que...
Du conseil municipal, voilà. Aussi, oui.
Bien sûr.
Qui ne voulait pas de Pasqua.
Absolument. C'est-à-dire les conseillers municipaux eux-mêmes s'étaient ralliés
aux
candidats de substitution, qui devait être de substitution et qui s'imposait, oui. Nicolas Sarkozy. Alors, tu as consacré plusieurs ouvrages à Nicolas Sarkozy et aux tourments que les aléas de sa vie privée ont causé à sa vie publique, notamment pendant et après l'élection de 2007. Est-ce que Nicolas Sarkozy est-il l'homme politique le plus sensible aux émotions que tu as connues, le plus sujet à l'affect des grands fauves de l'arène politique ?
Ce qui est fascinant chez Nicolas Sarkozy, c'est à la fois cette ambition chevillée au corps avec l'idée, dès qu'il est entré à la permanence, si je fais de la politique, c'est pour monter haut. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu viser le plus haut, sans problème, parce qu'il s'en sentait capable, parce qu'il le voyait, parce qu'il trouvait qu'il apportait des idées à Jacques Chirac, dont il disait qu'il en avait peu, et que Chirac, dans le fond, était très heureux de se décharger sur lui pour animer des colloques, pour apporter des idées. D'ailleurs, lui-même disait, Nicolas Sarkozy disait, il avait cette phrase... Quand je ne suis pas invité à dîner, je sonne, j'arrive avec un panier garni et c'est rare qu'on ne me garde pas à dîner. Ça voulait dire qu'on avait besoin de lui. Voilà. L'entourage de Jacques Chirac disait que c'était un animateur hors pair. Il avait ce talent-là. Mais lui, Nicolas Sarkozy, il a d'abord été maire, et puis député, et puis conseiller général, président du conseil général. Il a mené sa barque tout seul, sans avoir l'appui du parti, mais en s'imposant dans ses Hauts-de-Seine, où il était une grande figure des Hauts-de-Seine.
Il n'avait pas l'appui de Jacques Chirac ?
Mais Chirac, en tous les cas, il n'en a plus besoin à un moment, tellement il existait par lui-même. Et puis, après l'échec de 88, la présidentielle de 88, où Jacques Chirac a été battu, où Mitterrand a été réélu après la cohabitation de 2 ans, Jacques Chirac a connu un peu une déprime, parce qu'il espérait être élu, et pendant 2 ans, il est un peu remonté sur sa bête quand il a été élu, quand il a obtenu le Grand Chelem à Paris. On rêve d'ailleurs quand on y pense qu'il a pu être majoritaire dans tous les arrondissements de la capitale, hein, en 89. Bon, donc ça, ce sont bien des temps révolus. Mais lui, Nicolas Sarkozy, qui avait été réélu, a rencontré Édouard Balladur et a dit « j'aimerais travailler avec vous ». Et Nicolas Sarkozy, lui, il était chargé de préparer le programme et la campagne d'un Jacques Chirac qui se présenterait en 2002. Vous voyez, on avait du temps.
À la présidence de la République.
Mais il s'est dit, entre-temps, je vais travailler avec Édouard Balladur, qui avait été ministre d'État, Mini, c'est lui qui avait fait les privatisations pendant la cohabitation avec Mitterrand, qui était un personnage qu'on disait en chaise à porteur, parce qu'il était comme ça, toujours très élégant et avec un peu compassé, un petit peu, c'est pas quelqu'un à qui on tapait sur le ventre, mais qui avait quand même une intelligence analytique assez étincelante et dont Jacques Chirac s'était beaucoup servi. Il était celui qui était un peu son inspirateur politique. Et là, après cet échec, et Pasqua et Balladur se sont dit « Chirac ne sera plus jamais réélu ». Donc ils ont décidé un peu de reprendre leur liberté. Et Balladur s'est dit, si jamais il devait y avoir une autre cohabitation, moi je suis sûre qu'elle pourrait y réussir, parce que Édouard Balladur était persuadé que si la cohabitation n'avait pas bien marché, c'est que Jacques Chirac, au lieu d'être pleinement Premier ministre, voulait absolument être ministre des Affaires étrangères et courser Mitterrand, l'embêter, et faisait que Mitterrand lui en voulait beaucoup. Donc il s'est dit, moi, s'il y a une nouvelle cohabitation, je serai Premier ministre, je n'entraverai pas Mitterrand dans la politique étrangère, et on peut réussir. Il suffit de préparer les choses à l'avance, d'avoir un programme, de penser quelles choses doivent être faites. Et donc, il s'est mis à travailler pour lui, à faire un livre avec Jean-Pierre Elkabbach pour dire pourquoi ça n'a pas marché dans la cohabitation, mais pourquoi ça pourrait marcher. Donc, c'était un homme qui avait un plan, qui voulait réussir. Et Jacques Chirac trouvait que c'était formidable d'avoir un Édouard Balladur qui voudrait bien être Premier ministre d'une nouvelle cohabitation, parce que lui se disait, moi Mitterrand, j'en ai soupé une fois, je ne veux pas.
Mais tu écris... D'ailleurs, tu dis que c'était Chirac et Balladur, deux pompidouliens,
oui.
Et en même temps l'antithèse l'un de l'autre. Chirac est tout en longueur, en air, en jambes, Balladur tout en courbe et en rondeur.
Oui, c'est ça. Et je crois qu'ils avaient le caractère de leur physiologie. Ils étaient, disons, très complémentaires. Très complémentaires. Et Édouard Balladur admirait sincèrement Jacques Chirac pour son entrain, cette chaleur qu'il avait dans les meetings et ce dont il était bien incapable. Et du coup, Jacques Chirac se disait, dans le fond, quand on fait campagne, qu'il faut aller chercher les gens avec les dents, les séduire, embrasser les gens, les prendre dans les bras, ce qu'il savait très bien faire. Et ce qu'il aimait faire, il disait, mais Édouard, là, il est fatigué, il veut se coucher tôt, il n'aura jamais les capacités. Et quand Alain Juppé disait, méfiez-vous, si Édouard devient Premier ministre, après l'idée lui viendra d'être candidat, il dit, mais non, mais il ne sera jamais populaire, Édouard, c'est impossible. Donc, là encore, je disais, ça a été une nouvelle double méprise, dans le fond. Parce que Jacques Chirac n'a pas mesuré à quel point, d'abord, Édouard Balladur était ambitieux, avait les moyens de son ambition, parce que lui n'avait pas besoin de quelqu'un pour lui faire ses notes et savoir ce qu'il devait penser, parce que dans le fond... Édouard Balladur a été le maître à penser de Jacques Chirac. Hein, parce que peut-être, est-ce que c'était par paresse, il trouvait que c'était bien, bien agréable d'avoir quelqu'un qui faisait les choses pour lui. Et donc, Balladur s'est mis à son compte. Et Nicolas Sarkozy, lui, il a vu tout le bénéfice qu'il pourrait avoir à travailler avec Édouard Balladur. D'abord parce que c'était un maître à penser qui le formait, avec qui il avait des discussions sur le fond qu'il n'avait pas avec Jacques Chirac. Hein, il pouvait
et
marcher.
C'est pour ça qu'il a choisi Balladur.
Mais oui, et puis Sarkozy. Surtout, mais d'abord pour l'agrément, parce que Chirac, il ne considérait pas Sarkozy. Il lui disait, tu fais ça, c'était un chaouche. Il le traitait comme un chaouche, enfin, tout en étant gentil avec lui. Mais il trouvait que c'était normal que Nicolas Sarkozy soit à son service et ne pensait pas à faire des renvois d'ascenseur. Tandis que très vite, Nicolas Sarkozy, qui était devenu indispensable à Édouard Balladur, en lui apportant la vitalité et des idées qui sur l'organisation des choses que Balladur n'avait pas, mais Balladur lui apportait une réflexion sur des sujets auxquels il n'aurait pas pensé. Donc eux aussi étaient très complémentaires. Et lui, il a vu très vite, Nicolas Sarkozy, que si jamais Édouard Balladur devenait Premier ministre, il pourrait être ministre. Il pourrait être ministre pendant la cohabitation. Et donc, il avait déjà vu ce qu'il voulait. Il voulait être ministre du budget, et puis porte-parole, et puis on a vu que...
Mais Chirac a réagi quand même.
Chirac, c'est-à-dire que, alors que Chirac pensait qu'il ferait sa campagne et qu'il lui serait tout entier dévoué, il y a un moment où Sarkozy, ayant accepté d'être ministre du budget d'Édouard Balladur, est allé voir Chirac pour lui dire, écoutez, non, je soutiens Balladur. Je ne sais pas ce qui s'est passé en tête à tête. Il lui a dit pourquoi. Mais je pense que dans la façon où Nicolas Sarkozy s'est exprimé et a expliqué à Jacques Chirac pourquoi il ne le soutiendrait pas, je pense que Chirac a dû avoir une blessure d'amour propre énorme, la chose impardonnable, parce qu'il a dû lui faire sentir qu'il trouvait Édouard Balladur plus intelligent que lui. Il y a eu une cassure et qui ne s'est jamais raccommodée.
Alors, l'échec de Nicolas Sarkozy en 2012 à être réélu, est-ce que ça ne réside pas, à ton avis, dans les failles de son extraordinaire tempérament ou dans la difficulté de la conjoncture politique du moment, ou encore d'un drame personnel qu'il va vivre? Je te demande de répondre dans quelques instants.
Europe 1, 10h, 11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Catherine Ney, grande voix d'Europe 1, bien sûr. L'échec, on en était à Nicolas Sarkozy, l'échec de Nicolas Sarkozy en 2012 à être réélu, est-ce que ça ne réside pas, à ton avis, dans les failles de son extraordinaire tempérament? Ou alors dans la difficulté de la conjecture politique du moment, ou encore d'un drame personnel qu'il va vivre?
Non, mais le drame personnel, c'est-à-dire la rupture avec Cécilia, le divorce était épongé lorsqu'il a été battu en 2012, parce qu'entre-temps, il avait réépousé, il s'était remarié avec Carla, et il était il avait retrouvé une sérénité, et il est très heureux, et même la façon dont il a rebondi est même assez extraordinaire. Non, moi, je reviens en arrière, parce que Jacques Chirac, qui a été élu en 1995, et Balladur battu, eh bien, les premiers temps, évidemment, avaient banni les Balladuriens de son gouvernement, alors que Juppé les aurait bien fait venir, parce que ça créait des tensions au Parlement absolument inutiles. Mais Jacques Chirac ne voulait rien entendre. Et il a fallu attendre la dissolution, c'est-à-dire où Jacques Chirac a laissé le pouvoir pendant 5 ans à Jospin, pour qu'il consente à laisser revenir Nicolas Sarkozy au parti, alors que Juppé en avait démissionné parce qu'il avait eu ses ennuis judiciaires que l'on sait, et être obligé de partir pendant un an au Québec parce que inéligible pendant un an. Enfin bon, ça a été le gros drame de sa vie parce qu'il avait comme directeur de cabinet engagé des fonctionnaires à la mairie de Paris qui travaillaient aussi pour le parti. Ça a été pour Jacques Chirac quelque chose de très douloureux. Et il a consenti à faire revenir et Philippe Séguin, dont il avait peur, pour prendre le parti. Et Philippe Séguin, lui, a choisi de faire venir Nicolas Sarkozy. Et finalement, Chirac l'a accepté et même s'est servi de Nicolas Sarkozy parce que le caractère ombrageux et un peu fou de Séguin faisait que quelquefois il l'appelait pendant plusieurs jours et Séguin ne répondait pas et il disait avec Nicolas Sarkozy les choses peuvent peut-être un peu mieux s'arranger. Mais il n'empêche, après la démission de Philippe Séguin en pleine campagne européenne pour une vexation que je ne raconterai pas, enfin des choses qui montraient quand même les failles de son caractère, Jacques Chirac s'est opposé à ce que Nicolas Sarkozy prenne la tête du parti. Il n'en voulait pas, lui a demandé de renoncer. Nicolas Sarkozy a renoncé. Et pendant les 2 ans qui ont précédé 2002, Jacques Chirac a fait croire à Nicolas Sarkozy qu'il aurait besoin de lui. Et Nicolas Sarkozy a cru que ça voulait dire « je pourrais te nommer Premier ministre si je suis réélu ». Et donc Nicolas Sarkozy s'est dit « de toute façon, Juppé n'est pas là. Quand je regarde qui pourrait être le Premier ministre de Chirac, je ne vois que moi ». Donc il s'est préparé. Il a écrit un livre, il a voyagé, il a fait des choses. Et je me souviens, Antoine Ruffnac, qui était le directeur de cabinet de Chirac pendant la campagne, il disait à Nicolas « mais ne décide pas qui sera le Premier ministre de Chirac, que tu ne peux pas lui forcer la main ». Et c'est donc là on découvre un Nicolas Sarkozy qui, impétueux, veut forcer un président à le choisir alors qu'il n'en a pas envie. Donc Jacques Chirac n'a pas voulu de lui comme Premier ministre et a choisi Jean-Pierre Raffarin. Et là, je peux dire que la guerre a commencé entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Parce qu'à défaut d'être Premier ministre, il a voulu montrer au pays tout entier qu'il était le premier des ministres, le premier comme ministre de l'Intérieur, qui tous les jours, toutes les semaines, créait l'événement, envoyait des cartes postales, était adulé par, était devenu l'homme de l'année de toutes les années pendant 2-3 ans. C'était celui vers lequel tous les Français disaient « Mais voilà, le successeur est là ». C'est-à-dire qu'il a pourri la vie de Jacques Chirac pendant 5 ans, ça c'est vrai. Et il s'est choisi lui-même et il s'est imposé et à la tête du parti. Il a fini par obtenir tout ce que Jacques Chirac ne voulait pas lui donner et à s'imposer comme successeur, voilà, pendant 5 ans.
Et il a été le successeur de Jacques Chirac.
Il a été le successeur, mais un bonheur est arrivé seul mais entaché d'une grosse défaite. C'est-à-dire que le vainqueur de 2007 était un vaincu de l'amour. Parce qu'il n'a pas vu que dans toutes ces péripéties où il quittait l'Intérieur, où on le nommait à Bercy, ou parce que Jacques Chirac ne voulait pas qu'il soit à la fois ministre et qu'il prenne le parti, il n'était plus au gouvernement, il allait au parti. Eh bien, je pense que Cécilia s'est lassée de ce tohu-bohu permanent, de cette tension du couple. Et tout d'un coup...
Mais tu le définis très bien, d'ailleurs, oui, dans ton livre, l'impétueux.
Oui, l'impétueux. Et puis surtout, cette tension permanente. C'est quelqu'un qui ne vit que dans la tension, dans le combat. Et c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui... Nicolas Sarkozy, c'est... Bon, il peut être très drôle, il a beaucoup d'humour, mais c'est pas quelqu'un qui est détendu. Et là, je pense que pour une femme, c'est difficile de vivre sous cette pression. Et puis arrive... Ce qui peut arriver, c'est qu'elle est tombée folle amoureuse de Richard Attias et qu'elle n'a pensé qu'à une chose, eh bien c'est divorcer, alors que Nicolas Sarkozy pensait que s'il était élu, elle ne pourrait plus partir. Voilà. Mais personne ne savait dans son entourage, ses fils, pendant la campagne, qu'il vivait chez un ami. Elle vivait dans un appartement. Elle ne venait dans aucun de ses meetings. Ils se parlaient un peu, mais pas trop. Et que pour lui, ça a été un calvaire, une douleur. Et elle lui disait, dès que tu seras élu, je me tire. Et quand il s'est présenté à la présidentielle, il y avait ce stratagème qu'il était arrivé en voiture, en passant par le garage, en se cachant pour faire croire, pour ressortir avec elle, faire croire qu'il vivait là, à Neuilly, dans un appartement qu'ils avaient loué après avoir vendu leur appartement, pour venir ensemble voter à la... voté pour le premier tour. Et au deuxième tour, elle n'a pas voulu l'accompagner. Elle n'a même pas du tout voté. Enfin, il a vécu avec elle un calvaire. Un calvaire dont l'acmé a été ces fameuses vacances aux États-Unis, ce qui était quand même très bizarre qu'un président à peine élu aille passer ses vacances en Amérique. Mais là, il faisait ça pour lui faire plaisir. Et là où elle l'a humilié, elle a refusé de répondre à l'invitation des Bush. Et là, on peut dire qu'elle lui a pourri, elle, son entrée en matière, parce qu'elle était dans son combat de reconquérir Attias, tandis que lui, il était dans le combat de la reconquérir là, elle, et ça, il a été battu. Ça a été un échec. Et donc, il s'est résolu au divorce, alors que le Fouquet's, le bateau Bolloré, les vacances à Marlborough. Il a accepté tout ça pour lui faire plaisir, croyant qu'il pourrait la garder, qu'enfin ce rôle de première dame lui plairait, et que rien n'a marché, et que ça a impacté terriblement son premier quinquennat.
Alors, je ne résiste pas à l'idée de te demander si tu devais choisir quelques personnages de la Ve République, Catherine, à garder dans une galerie, lesquels tu choisirais et pourquoi ? Tu as passé en revue une bonne partie de l'histoire de la Ve République.
Moi, je dirais que pour finir sur Nicolas Sarkozy, je dirais que c'est un personnage hors norme, qui a des capacités hors normes par rapport aux autres, et qui a été lui-même son pire ennemi, parce qu'il y a toujours une violence verbale, c'est-à-dire que son intelligence, il y a un conflit entre son intelligence qui est hors norme et ce tempérament tumultueux qu'il ne sait pas contenir. Et donc, cette bagarre entre cet être double et lui a donné... Voilà, il s'est créé lui-même ses ennemis. Moi, je pense qu'il aurait pu être réélu s'il n'avait pas vexé autant de gens autour de lui.
On va voir ça d'ailleurs avec son discours sur les magistrats. On fait une deuxième pause.
Tous les dimanches de l'été sur Europe 1, 10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Catherine Ney, je te disais que je ne résistais pas à l'idée de te demander si tu devais choisir quelques personnages de la Ve République à garder dans une galerie, lesquels tu choisirais et pourquoi. Et tu as cité Nicolas Sarkozy, sur lequel on n'a pas fini d'ailleurs, par rapport à son caractère et par rapport à ses éclats. Et notamment, je te demandais son fameux discours pas devant la Cour de cassation et la réunion des magistrats.
Oui, mais c'est des discours où il s'est fâché avec des pans entiers de la société. Avec les magistrats, c'est un jour où il le commentait dans une émission de Drucker, l'entrée de la cour, une cérémonie à la Cour de cassation où il voyait Rachida, la ministre qu'il avait nommée, assise dans ce grand fauteuil rouge et entourée,
Rachida Dati,
entourée de tous les magistrats avec leurs hermines et toute cette chose, voilà, et puis les autres. Et c'est là où il avait dit que il avait fait cette, en disant, mais voyez, je voyais cette jeune femme là assise un truc et les autres tous pareils, même études, même milieu, enfin la même calibre, enfin des petits pois, mais voilà, sans saveur, voilà. Bon. Donc, c'était déjà quand même quelque chose d'assez injurieux.
Ah, c'est resté, toujours.
C'est resté. Je crois aussi que la deuxième chose, c'est quand Nadal, qui est un militant socialiste, avait fait devant la Cour de cassation un discours, le procureur, où il avait un peu critiqué la politique pénale de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy l'avait fait venir à l'Élysée, il l'avait passé au chalumeau avec une violence dont même Claude Guéant disait qu'il en était gêné. Et bien, aussitôt, Nadal était parti voir Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, pour sortir l'affaire Tapie sur le fameux, pour dire que l'arbitrage s'était passé de manière qui n'était pas normale et qu'il fallait lancer la justice sur cet arbitrage.
L'affaire Adidas. Mais...
Et puis, il y a eu aussi, à la fin de sa présidence européenne, qui a été un succès, en janvier 2009, il a fait un mois dans lequel il y avait un discours tous les deux jours à toutes les aux armées, et donc devant la justice, où il a annoncé la suppression du juge de l'instruction. Alors que la commission...
Enfin, la réforme confié à un magistrat, M. Léger.
Qui s'appelait Monsieur Léger, qui était en train de travailler, qui était en train d'établir un consensus pour refaire cette réforme, sur lequel beaucoup de magistrats sont d'accord, qu'il y a cette anomalie en France, et ça tu connais bien ça Charles, de juge qui instruit à la fois à charge et à décharge, et c'est le plus souvent à charge, qu'il fallait rectifier ça, et que ça se serait pu se faire presque calmement si lui n'avait pas anticipé les résultats, il l'avait annoncé, il a tué cette réforme. Voilà. Donc, il s'est fait des ennemis qui continuent de lui faire payer une espèce d'aversion.
C'est-à-dire qu'il les fabrique lui-même, quoi.
Il les fabrique lui-même. Voilà, c'est ça qui lui a porté tort.
Mais alors, justement, dans cette galerie de portraits, Sarkozy tient une place. Mais tu y ajouterais qui de tous les président, premier ministre que tu as connu quasiment depuis le début de la Ve République. Lequel tu distingues le plus complet ?
Le plus complet, évidemment, de Gaulle mis à part, moi j'ai été fascinée quand même par Pompidou, mais je dirais que le Pompidou, premier ministre, a été un grand président de la République, parce que la période Pompidou, Premier ministre, jusqu'en mai 68, qui était formidable. Parce qu'après, dès qu'il a été élu président, on a vu qu'il était malade. Quoi. La maladie a commencé très tôt. Donc, il n'a pas pu donner ce qu'il aurait pu donner pour transformer la France. Et que la maladie l'en a empêché. Donc, c'est une histoire triste, finalement. Bon, moi, je dirais que Giscard...
Non, mais il n'empêche... Pardon de t'arrêter, mais il n'empêche, tu dis bien que dans cette galerie de portraits, indéniablement, au premier rang, en tout cas parmi les premiers, tu places Georges Pompidou, oui. Premier ministre, oui. À l'exception du général de Gaulle que nous mettons à part.
Oui, ouais. Oui. Non, mais ça, c'est sûr que Georges Pompidou, il avait des idées simples qui me semblaient le bon sens. Et
l'Auvergnat et puis, type.
Oui, et puis avec, comme ça, il incarnait...
Agrégé de lettres, normal
agrégé
sup.
Agrégé de lettres, normal sup, agrégé de lettres classiques, Sciences Po, enfin, il cochait toutes les cases. Et c'était la France méritante, sortie d'un petit village de Montboudy, vous voyez, boursier, et qui était devenu un être comme, qui avait des capacités hors normes et qui incarnait finalement bien...
La France profonde.
Voilà, il y avait une adéquation entre lui et le peuple, je crois, parce qu'il se sentait représenté par quelqu'un qui réunissait tout le monde. La France d'en haut, la France d'en bas, je dois dire. Bon. Donc ça a été un moment... et la France, c'était un moment où la France avait 5% de croissance par an et se portait bien. Donc oui, c'est vrai, j'étais fascinée par le personnage. Bon, Giscard, moi, j'étais sûrement un peu sévère avec lui, mais c'est son style qui m'agaçait. Et lorsqu'il est mort, je me suis dit, dans le fond, il a quand même été un président... un président qui avait des capacités intellectuelles hors normes et qui a beaucoup fait évoluer l'Europe et qui a modernisé la France quand même, beaucoup.
Et qui a laissé les finances de l'État en bon ordre, grâce à son premier ministre
Raymond
Barre.
Oui, ça a été la dernière fois que les finances étaient en ordre et que la France n'était pas endettée. Ça, c'est vrai, il y a à mettre à son crédit. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été battu.
En tant que femme, Catherine, moi, je crois que tu n'as pas ton pareil pour juger de l'influence des Premières Dames sur l'hôte de l'Élysée. Est-ce que tu as été surprise, par exemple, par la montée en puissance du rôle de Bernadette Chirac ?
Oui, parce que quand Jacques Chirac a commencé à faire de la politique, on la voyait, elle avait l'air d'une jeune femme timide et qui est un peu empotée. Et on se disait, on n'imaginait pas... à quel point elle deviendrait la reine de France, quoi, avec une autorité naturelle et un mordant. Et c'était une femme très drôle, qui pouvait être très méchante, très caractérielle aussi, parce que lunatique, mais qui s'est dévouée corps et âme à son mari, qui l'a trompé beaucoup, ce dont elle souffrait. Mais elle lui a été indispensable. Moi, ce qui me fascine dans ce couple, c'est que quand on regarde leur histoire, ils se sont connus à Sciences Po. Ils avaient 18 ans, ils se sont mariés, ils en avaient 23. Mais c'était des gamins, vous voyez. Et elle sortait de ce milieu qu'on passait, où on se disait vous...
Chaudron de
Courcelles. Les chaudrons de Courcelles. Et épouser ce type qui était un tourbillon dans la vie, qui n'était jamais là, qui partait en Corrèze. Et qui lui a fait ce cadeau, à la fois pour l'envoyer en Corrèze, de se faire élire, qui lui a fait ce cadeau de la laisser se faire élire comme conseillère. En Corrèze. Et c'est le conseillère générale.
Pourquoi ce cadeau ?
Mais parce que c'est là où elle est devenue une femme politique, où elle a pris son autonomie et sa légitimité. Et là, elle était sur le terrain, elle se baladait partout avec sa petite Peugeot rouge. Elle entrait, elle qui était snob, elle entrait dans les cours de ferme, elle parlait à tout le monde et elle revenait. Et elle savait ce qui se passait dans le pays. Et elle savait que le Front National montait. Et elle savait. Et son mari ne l'écoutait pas dès qu'elle lui disait quelque chose. Et donc, elle a œuvré à lui. Il ne l'écoutait pas, mais elle était là. Et en tout cas, elle a toujours été élue et réélue dans son. Et elle organisait des grandes. Et c'est à partir du moment où il a été élu, elle a adoré être à l'Élysée, où elle était une maîtresse de maison formidable. Et alors que sa fille voulait l'écarter du jeu et trouvait qu'elle faisait mémère et qu'elle ringardisait l'image de son père, elle, au contraire, mais elle travaillait d'abord. Et ça a été d'autant plus flagrant après la dissolution, c'est qu'elle est devenue Madame Pièce Jaune. Et elle se baladait dans toute la France pour quêter de l'argent auprès des Français. Mais c'était pour les enfants dans les hôpitaux, pour empêcher la douleur, pour que les parents soient... Elle a fait un travail formidable. Et une fois par an, elle passait à la télévision, elle expliquait ce qu'elle faisait et elle était devenue mais très très populaire. D'ailleurs, elle me disait, vous savez, les Français croient que Jacques Chirac, c'est le mari de Madame Pièce Jaune. Elle me faisait comprendre que grâce à ça, Chirac, il était populaire. Et elle a œuvré à sa réélection en 2002. Elle a fait ce livre formidable avec Patrick de Carolis, qui est un livre formidable où elle raconte ses rapports avec Jacques Chirac et comment elle s'est dévouée à lui. Et je veux dire, elle l'a beaucoup, beaucoup aidé dans sa réélection. Moi, c'est une femme que j'admire beaucoup, mais je la voyais chez le coiffeur, on se rencontrait dans l'escalier et elle me disait des choses toujours à la fois pertinentes, très drôles. Enfin, je trouve que c'est une grande femme politique.
Ouais. On parle de Bernadette Chirac et Brigitte Macron. Et le rôle de Brigitte Macron ?
Mais Brigitte Macron, c'est une femme intelligente, très sympathique.
Tu la connais ?
Oui, enfin, je la connais. Je l'ai vue trois fois en cinq ans. Bon. Mais c'est une femme qui, je crois, est la seule personne que le président écoute. Celle dont il a dit, là, pendant la campagne, celle qui m'apporte le plus et qui m'importe le plus. Elle a beaucoup de sens politique. Elle est très fine. Elle est sûrement plus à droite que lui. Mais, voilà, elle n'est pas lui. Mais elle est une femme qui lui est, enfin, qui est un peu son alpha et son oméga, oui.
Catherine Ney, la rivalité feutrée entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe s'inscrit-elle, à tes yeux, dans la lignée des grands duels de la Ve République que tu as dépeints dans tes livres ? Est-ce qu'elle fournit la matière à un futur scénario littéraire ? Je te demande de répondre dans quelques instants.
Europe 1, les grands entretiens.
Charles Villeneuve.
Catherine Ney, est-ce que la rivalité feutrée entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe s'inscrit dans la lignée des grands duels de la Ve République que tu as dépeints dans tes livres ? Est-ce qu'elle fournit la matière à un futur scénario littéraire ?
On va voir quel rôle va prendre Édouard Philippe dans l'avenir. Hein. L'ennui, c'est qu'il est maire du Havre et pas au Parlement où tout se joue désormais. Avec une majorité relative, le Parlement, il va se passer plus de choses. Mais ce qui fait qu'il y a une permanence des choses dans les couples président-premier ministre, c'est qu'au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ils ne se supportent plus. Bon. Je crois que Édouard Philippe serait bien resté Premier ministre, mais c'est le président Macron qui ne le supportait plus parce qu'il était plus populaire que lui et que le Covid a fait qu'il est devenu... il a trouvé son intimité auprès des Français, il est devenu un personnage et ça, je crois que le président jaloux ne lui a pas pardonné et qu'il le considérait comme un rival et n'était pas prêt même à l'aider à exister politiquement avec un groupe ces derniers temps. Donc, ce n'est pas un homme... Ils n'ont jamais été amis, n'ont jamais déjeuné en tête-à-tête ensemble, ce qui est incroyable, mais c'est un couple de la Ve République singulier qui est un tandem qui s'est entendu à minima et dont on ne sait pas la suite. De toute façon, comme le président n'est pas rééligible, on verra si si Édouard Philippe, qui a du charisme, installe son leadership.
Donc, pour l'instant, pas de scénario littéraire pour un futur.
Non, mais presque dans tous les exemples, au bout de 3 ans, De Gaulle ne supportait pas Debré au bout de 3 ans, il n'en pouvait plus. Il ne supportait mal même Pompidou au bout de 3 ans. Vous voyez, il y a comme ça. C'est assez un grand classique, oui. Oui, oui.
C'était vrai pour François Mitterrand, si
ça a été vrai pour François. Non, mais je veux dire, il s'est séparé de Mauroy qu'il aimait bien, mais c'était plus possible parce qu'il changeait de politique. Après, il était très déçu par Fabius qui le traitait avec désinvolture et a été très choqué de ce caractère si peu reconnaissant. Et puis après, il ne supportait plus. Oui, 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 oui. Et Rocard, je ne vous fais pas de dessin, vous savez très bien qu'il ne le supportait pas. Et puis après, Édouard Balladur, avec lequel il s'entendait bien, l'idée qu'il soit son successeur, il ne le supportait pas non plus. Donc pour les présidents, je veux dire, pour des raisons pour une autre, ils sont très vite...
C'est un phénomène récurrent.
C'est un phénomène récurrent, c'est que... Il y a un livre qui s'appelle « L'amour dure 3 ans », mais là, entre président et premier ministre, 3 ans, c'est un laps de temps qui, au-delà duquel, comme ça, les deux tempéraments... ont du mal à vivre ensemble. Et je vois bien que Jean Castex, qui est parti, ne voulait pas rester un mois de plus. Voilà. Il avait fait son travail. il avait donné, et voilà. C'est lui qui avait donné plutôt assez du président, qui avait trouvé que voilà, ça suffisait comme ça.
Alors, Catherine, depuis tes débuts, la presse a changé, a beaucoup changé, et la politique a changé. L'évolution des relations entre la presse et le pouvoir, la manière de travailler des journalistes, l'impact de la presse sur la politique, a-t-il modifié en profondeur l'exercice du pouvoir ?
D'abord, ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. Qui est un cinquième pouvoir, ou un quatrième pouvoir, je veux dire, qui envahit comme ça l'espace, qui conditionne et qui pèse sur la vie des gens et sur les politiques. Il y a du bon et beaucoup de très mauvais. Du temps où j'ai débuté, il y avait des hommes politiques et au Parlement des grandes figures qui comptaient et qui étaient à la fois des gêneurs.
Tu penses à qui ?
Tous ces députés-maires, de droite ou de gauche, qui étaient des barons qui comptaient. Qui comptaient parce qu'ils avaient une expérience dans leur ville, et puis qui après venaient au Parlement, et fort de l'expérience qu'ils avaient, se faisaient entendre, poussaient leur pion, voulaient être ministres. Enfin, il y avait un jeu comme ça, mais avec des personnalités très fortes qui existaient, qui jalonnaient, qui enrichissait.
Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible.
Qui enrichissait la vie politique et qui donnait de l'intérêt. Mais aujourd'hui, le non-cumul des mandats, là, a été peut-être presque une tragédie pour la France, parce que il n'y a plus de... Voilà, il y a quelque chose... on empêche des hommes qui ont cette expérience de venir compléter par... leur présence au Parlement, de se faire connaître et d'exister comme des solutions possibles, des hommes de rechange au pouvoir. Tandis que maintenant, il y a une pauvreté dans la classe politique, un non-renouvellement qui tient au fait, par exemple, vous voyez aujourd'hui, on dirait qu'en 5 ans, l'Assemblée nationale s'est renouvelée à 90%. C'est des nouveaux. Alors, il y a eu d'abord, avec Emmanuel Macron, une majorité de 328 députés qui étaient des macronistes élus sur son nom, avec sa photo, mais qui étaient des débutants. Certains ont appris le métier en 5 ans, mais n'étaient pas connus. Et il y a eu une première traduction de ce changement-là, c'est qu'au moment des Gilets jaunes, quand les Gilets jaunes ont commencé à se réunir sur les ronds-points, eh bien, ils ne connaissaient pas leurs députés, ils savaient où était sa permanence, ils taguaient sa permanence, éventuellement ils brûlaient sa voiture, mais ne le connaissaient pas. Donc c'était pas quelqu'un qui, pour le pouvoir, le député, pouvait servir d'amortisseur. Et donc, faute de trouver quelqu'un avec qui discuter, parce qu'ils ne le connaissaient pas, ils sont venus à Paris pour tuer le roi. Voilà. Et comme, dès qu'ils venaient à Paris faire une manif, pendant des mois, ça a été le sport des chaînes en continu de les suivre pas à pas et de montrer comment Paris pouvait se laisser dans les manifs, les voitures brûlées, les pompiers agressés, les banques... Et il se passait ça sous nos yeux sans que personne réagisse. Et je pense que ça a démoralisé beaucoup le pays, parce qu'on s'est dit, ce pays, il n'y a plus d'ordre, l'ordre n'est pas maintenu en France, il peut arriver n'importe quoi. Et je pense que cet état de choses, c'est un enchaînement de choses qui fait que les Français ont perdu confiance et ont eu peur, parce qu'ils se disent, la sécurité, il peut arriver n'importe quoi. Il y a ça. Donc, le non-cumul des mandats, ça a déjà été une perte. Alors, on disait, mais dans les autres pays, c'est comme ça. Alors, moi, je ne dis pas que si on est maire de Paris, on peut pas... Peut-être qu'il vaut mieux ne pas être député, que c'est peut-être pour 3 grandes villes, c'est un métier... Mais il y a eu toutes ces villes moyennes qui étaient une richesse du pays, de gens, d'hommes qui pouvaient amener...
Les exclure. De l'Assemblée nationale, c'est exclure toute l'expérience de la vie locale et du Sénat.
Voilà. Et eux, ils étaient de bons conseils, et pour un pouvoir notamment quand... Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, a tenu très peu compte des élus locaux, les méprisait un peu, ils se sont sentis rejetés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très préjudiciable à l'intérêt de la vie politique. Bon. Il y a eu aussi, après l'affaire Cahuzac, la création de la haute autorité de la transparence, qui fait que maintenant, dès que vous êtes dans un poste, alors c'est sans doute bien, bon, mais là, pour beaucoup de gens, l'idée de dévoiler le patrimoine, de dire ce qui s'est passé pendant 5 ans dans leur compte ou dans leur vie, et après, une fois qu'ils ont quitté la politique, 5 ans durant, savoir ce qu'ils font avec des enquêtes permanentes, c'est très dissuasif. C'est très, très dissuasif. Et le parquet national financier, l'institution du parquet national financier, qui a un peu dévoyé son action, notamment dans l'affaire Fillon, et des juges qui font de la politique. C'est, enfin, tout ça, que vous mettez bout à bout le non-cumul des mandats, l'autorité de la transparence et le PNF, ce sont des armes de destruction massive de la classe politique.
Il ne faut pas oublier le traitement des élus, des ministres, baissé de 30% aussi.
Ça, c'est François Hollande aussi. C'est François Hollande.
Qui a diminué complètement le recrutement qualitatif des hommes politiques. Et est-ce que vous y ajoutez la retraite à 60 ans et les 35 heures de Jospin ?
Oui, l'industrie, on se demande pourquoi l'industrie a chuté à partir des années 2000, c'est l'application des 35 heures. Je veux dire, ça a augmenté les coûts de revient des produits de plus de 11%. Et puis, les 35 heures, ça a aussi amené les Français à penser que ne pas travailler, c'était presque un acte civique, moins travailler. Voilà. Et donc, c'est vrai, moi je trouve qu'aujourd'hui, et les 35 heures, c'est Jospin qui a voulu les instituer pour être le grand leader qui faisait ce que Mitterrand n'avait pas fait et ce que Blum avait fait trop brièvement, enfin, puisqu'il avait fait les 48 heures. Les 40 heures payées 48. Et donc, puisqu'il s'inscrivait pendant 5 ans à Matignon, il voulait laisser cette grande réforme dont les socialistes ont découvert à quel point ce n'était pas du tout ce que les ouvriers voulaient. Les ouvriers, ce qu'ils veulent, c'est avoir un travail et bien payé. Et pas des heures...
Disait Pompidou.
Eh bien voilà, ce que disait Pompidou.
Alors, tu as peu campé de femmes politiques dans tes ouvrages. Et où tu reconnais que une femme t'a intimidé. Simone Veil, en quoi ?
Simone Veil, d'abord, elle était nimbée de mystère. Il ne faut pas oublier que Simone Veil, quand elle est devenue ministre de la Santé, moi, je ne savais pas quel était son
parcours.
Son parcours.
D'où elle venait.
Et elle a défendu la loi sur l'interruption volontaire de grossesse à l'Assemblée. Alors que le pays et les journalistes ne savaient pas qu'elle avait été déportée. Et on a oublié qu'elle en a fait son outing, si j'ose dire, en 79 seulement, où elle a raconté. Elle l'avait caché parce qu'elle faisait partie de tous ces déportés qui ne voulaient pas en parler. Voilà, c'était parce que c'était trop douloureux pour ne pas en parler aux enfants, pour ne pas les perturber, pour des raisons. Et dans toutes les familles où il y avait eu, où les cas s'étaient posés, c'était la même chose, où on n'en parlait pas et on en a parlé peu à peu. Donc c'était une femme qui, quand on apprend ça, on comprenait à la fois son caractère, parce que c'était quelqu'un qui avait ce beau visage plein avec ses yeux verts de chatte égyptienne, comme ça. Et quand on la voyait, on était impressionnés parce qu'on se disait, elle a vu des choses qu'on remercie le ciel de n'avoir pas vues. Elle a vécu des choses qu'on remercie le ciel de ne pas les avoir vécues. Mais à la fois, elle était difficile. Elle disait d'ailleurs, moi, quand on me pose une question, on me propose quelque chose, je commence par dire non. Donc, on avait peur de la solliciter. Alors, on pouvait avoir avec elle, de temps en temps, des moments où elle pouvait être drôle, prime sautière, et parler de mode, un jour, elle me disait que de recettes de cuisine, qu'un jour, en ouvrant ses dossiers sur la table du conseil, il y avait une fiche de Elle Cuisine qui était partie au milieu de la table. Donc, elle pouvait avoir des moments comme ça, je ne dirais pas d'abandon, mais presque d'intimité, de familiarité, mais qu'elle reprenait aussitôt. Donc, on n'était jamais tout à fait à l'aise avec elle. Mais à la fois, on était fascinés par sa majesté, parce qu'elle portait toute cette histoire. Et puis quand on voit ce drame familial avec sa vie a été une suite quand même de grands malheurs.
C'était une rescapée de Birkenau-Auschwitz, qui est l'un des plus terribles camps de la mort. Ouais. Merci Catherine.
Merci.
Voilà, ce grand entretien en deux parties avec Catherine Ney est maintenant terminé. Si vous êtes passionné par ces coulisses de la vie politique française, je vous invite à écouter le nouveau podcast de Catherine qui s'appelle « Inséparables », où vous pourrez entrer dans l'intimité des couples qui ont épousé le destin de la France. Les chefs d'État et leurs premières dames, bien sûr, mais aussi des duos d'hommes politiques qui, parfois, se sont transformés en duels. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, 7 août, avec l'homme clé du renouveau mondial de l'équipe de France de rugby, Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. Passez un bon été à l'écoute d'Europe 1.